du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro, deux générations de comédiennes avec nous aujourd'hui. La première est née à Montréal dans la paroisse Saint-Arsène du quartier de la Petite Patrie en 1929. Au gré du temps, on l'a vue dans plus de 40 films ou téléséries et elle s'est beaucoup illustrée au théâtre. Elle vient de publier l'automne dernier un livre, une espèce de biographie sans secret qui a pour titre « À mon âge, on peut tout dire ». La seconde voit le jour à Montréal en 1940. À 18 ans, elle devient Jeannine Jarry dans Rue des Pignons. Au gré du temps, elles développent toutes deux une très grande amitié. Grand plaisir d'accueillir Béatrice Picard et Marie-Josée Longchamp. Bonjour à vous deux.
Bonjour, bonjour. Bonjour.
Comment allez-vous, Madame Picard?
Mais ça va toujours très bien. Même quand ça va pas bien, on le fait aller, comme dirait l'autre, parce que quand on me dit, elle se met à dire « Ah, c'est pas pleu aujourd'hui, ou ben, oh, je suis fatiguée. » Ben, là, la journée est finie.
C'est vrai que c'est une longue amitié entre vous deux. Deux générations, je disais bien, de comédiennes, n'est-ce pas?
Oui, on est deux générations différentes, mais notre amitié s'est développée surtout à l'époque de Vues et Voix, depuis quelques années.
Oui, oui.
Qu'on a commencé à sortir ensemble.
Parce que on se connaissait. Mais on ne se fréquentait pas.
C'est
parce
exact.
Qu'il y a trop de différences entre elle et moi. Ça n'a pas de bon sens. On parle de générations différentes.
Mais pourtant, vous êtes jeune de cœur.
Ah, ben toujours. Mais seulement que quand ça fait 70 ans que vous faites ce métier-là...
C'est assez incroyable quand même.
Alors donc, c'est... Je la considérais comme une petite jeune et tout, mais...
C'est parce que je voudrais dire que c'est parce que aussi on n'a pas eu de projet à part Rue de Lens quand j'étais adolescente. On n'a pas été dans un projet, une production ensemble.
Mais
ce qui crée des liens.
Oui,
qui
exactement.
Qui durent toujours la plupart du temps.
Et dans Rue de Lens, tu étais une petite fille et moi j'étais une vieille dame déjà à ce moment-là.
Mais c'est ça.
Alors donc,
j'avais 15 ans, t'en avais 30, une trentaine d'années quoi.
Ça a été votre premier rôle, ça, dans Rue de Lens, Marie-Josée?
Enfin, mon premier rôle, ça a été surtout dans De 9 à 5, réalisé par Louis Bédard et écrit par
Marcel Dubé.
Et ça, c'est un peu les deux en même temps. Parce que quand j'ai auditionné pour Rue de Lens, c'est à peu près en même temps que De 9 à 5. Alors, on a tourné tout de suite. J'avais tourné la première fois à la fin de l'hiver au Méchain. Et ensuite, on a tourné l'été suivant où on nous habituait à la même maison. Il y avait plusieurs appartements, puis il y avait trois étages ou deux étages.
Oui.
Il y avait Juliette Huot, il y avait... on se fréquentait pas parce que j'avais 15 ans. Puis à l'époque, quand on avait 15 ans, c'était pas les 15 ans d'aujourd'hui, tout à fait. c'était pas la même chose.
Imaginons vos 15 ans à vous, Béatrice.
Mais, écoutez, j'avais déjà, moi, des enfants, qui étaient plus jeunes, bien sûr. J'avais quoi, peut-être 7-8 ans, mais... Donc, pour moi, c'était une enfant. Alors, donc, on ne se fréquentait pas.
Est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier rôle?
Le tout premier rôle, c'était un rôle à la radio. Et tout à fait par hasard, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas décidé d'être une comédienne. Je voulais faire mon droit. Mais j'avais étudié chez Madame Jean-Louis Audet, comme la plupart des acteurs de nos jours à l'époque. Là, je pense que Marie-Josée aussi a étudié chez Madame Audet.
Oui, c'était la bonne diction.
Voilà. Elle nous apprenait à s'exprimer correctement. Et moi, c'est ce que je voulais. J'étais très timide à l'époque. Et souvent,
ça, on a de la difficulté à le croire, mais quand même.
Et souvent, les réalisateurs l'appelaient pour demander un rôle. Et mon premier rôle, j'ai joué un petit garçon de 6 ans dans l'émission qui était de Tante Lucie. Et Tante Lucie, c'était une histoire complète en 5 quarts d'heure dans la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et j'ai fait 2 émissions dans ces 5 émissions-là où je jouais ce petit garçon de 6 ans.
Mais tant Lucille, Béatrice, c'était à la radio.
Oui, à la
parce
radio.
Parce qu'il n'y
avait pas de télévision à ce moment-là.
La télé, c'est vers 53-54, si je me souviens bien, parce que chez nous, on a eu la télé très tôt. J'habitais à la rue Plessis.
1952, la télévision de Radio-Canada.
Quand on a eu la télé, ma mère avait une épicerie, donc on connaissait beaucoup de gens. Ma mère était, et mon père, des gens très rassembleurs. Puis il y avait plein de gens qui venaient chez nous pour regarder plus tard, un petit peu plus tard, le survenant. Puis,
alors, on est dans les souvenirs. Pourquoi pas une belle chanson d'Aznavour, Hier encore.
Ah oui.
Oh, ça me fait plaisir.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de la mort. Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, et le cœur mis en terre. Bien encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même à le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis. Que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis. Que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, je sais la vie autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires, j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent.
Hier encore, Charles Aznavour, nos invités aujourd'hui, Béatrice Picard et Marie-Josée Longchamp. On parlait de ses premiers rôles, soit à la radio, à la télévision. Dans votre cas, Madame Picard, ils ont été excessivement nombreux à la télévision. Vous avez joué des rôles parfois dramatiques, on pense à Angelina, qui était quand même un rôle sérieux, mais vous avez joué des rôles du comique, qui n'a pas en tête l'épouse d'Olivier Guimond dans Crébasil.
Exactement, et d'ailleurs, ça avait... À l'époque que je parte, moi, de Radio-Canada pour aller à Télémétropole, comme on appelait, là, et on s'imaginait toujours que c'était fait de la grosse farce, alors que c'était pas ça du tout. Vous savez que Crébasil a été la première comédie de situation, comme on dit en anglais, le sitcom québécois, parce que ça ne se faisait pas. À l'époque, c'était toujours des drames qu'on jouait à la radio. Et même quand on jouait à Radio-Canada, c'était dans des téléromans, là, où c'était vraiment des... C'était pas de la comédie. C'était...
Avec quand même une belle brochette de comédiens et de comédiennes. On pense à Amulette Garneau, Denis Drouin, Olivier Guimond, bien sûr.
Il y avait aussi Juliette Huot. Et il y avait également Gilles Latulippe,
bien
qui
sûr.
A fait quelques petites apparitions. Et quand ça s'est terminé, l'émission, et que là, Marcel Gamache a voulu refaire autre chose, et là, il a pris le personnage de Gilles Latulippe, qui était un plombier, etc. Pas le plombier, mais oui, qui venait réparer, faire des réparations, et puis il en a décidé d'en faire une seconde.
Et un succès, encore une fois.
Ça marchait très
incroyable.
Fort. Il faut dire que ce jeune homme-là, moi, j'ai assisté à ses débuts. Il a commencé à jouer dans la pièce de Gracien Gilina.
Il jouait du dramatique.
Ah, ben oui. Et, mais seulement, il jouait du dramatique. Oui. Il était tellement sérieux dans son dramatique qu'il faisait rire au possible à cause de son physique.
Ben oui.
Il avait joué dans Bouseiller les Justes. Et simplement, il n'avait pas dit un seul mot.
Il était comique.
Avec son regard, cette espèce de sourire béat de petit séminariste, que la salle éclatait de rire, et ça a été un succès monstre.
Ce sont de beaux souvenirs. On en a peut-être une mélancolie.
Peut-être.
Pourquoi pas le faire chanter, ce beau titre Mélancolie par Pierre Dudas. Une chanson qui date quand même de 1948 et qui a connu un énorme succès, comme un grand nombre de celles écrites par lui. On pourra y revenir tout de suite après l'écoute de cette chanson.
Mélancolie, un jour s'achève. Mélancolie, on n'y peut rien. Chaque soir, dans la fumée et dans l'alcool, on noie ses rêves seuls jusqu'au matin. Et chaque nuit, ça recommence pour torturer le cœur trop lourd. Le cafard dans la fumée et dans l'alcool mène la danse jusqu'au jour. Demain il y aura de l'amour et de la lumière, peut-être bien, ça m'est égal. Barman jusqu'au matin remplit mon verre, je veux rêver que j'ai moins mal. Mélancolie, tu nous enchaînes plus fortement qu'un grand amour. Un beau soir, dans la fumée et dans l'alcool, on noie ses peines pour commence pour torturer le cœur trop lourd. Le cafard dans la fumée et dans l'alcool mène la danse jusqu'au jour. Demain il y aura de l'amour et de la lumière, peut-être bien, ça m'est égal. Barman jusqu'au matin remplit mon verre, je veux rêver que j'ai moins mal. Mélancolie, tu nous enchaînes plus fortement qu'un grand amour. Un beau soir, dans la fumée et dans l'alcool, on noie ses peines pour toujours.
Ah, Pierre Dudant. C'est parce que moi, j'ai eu le plaisir de le connaître personnellement, Pierre Dudant, qui est, dont un de ses fils, c'est le filleul de mon mari, Jean-Marc. Et Pierre Dudant, je me suis promenée avec Jean-Marc et lui à Paris. J'ai bien connu Pierre Dudant. J'ai de ses livres à la maison. Il avait un humour. On dit un humour.
Oui.
Moi, je suis mélangée dans mon féminin, mon masculin ce soir. Mais un humour fantastique.
Il venait souvent, d'ailleurs, au Québec.
Il venait souvent au Québec, puis... Il s'était fait, oui, il était tout aussi québécois, mais il est né en Russie. Et quand il venait au Québec, il avait fait construire à un endroit qui s'appelle Lost River, que nous, on a rebaptisé Rivière Perdue, parce qu'on francisait tout, je francise encore beaucoup les choses, un superbe chalet en bois rond que quand il a décidé qu'il pouvait plus venir pour toutes sortes de raisons, c'est nous qui l'avons acheté, son chalet. Alors, je suis très privilégiée parce que Pierre Dudant, c'était tout un personnage.
Et son apport à la chanson française est incroyable. Plus de 1500 titres composés par Pierre Dudant. On pense à Ciel de Paris en 49, Journaux du soir, Un monsieur qui parle tout seul. Il y en a eu plein d'autres.
Café au lait au lit.
Café au lait au lit, bien sûr.
Café au lait au lit.
Exact. Clopin Clopin. Vous m'en rappelez un autre. Il a tourné dans une quarantaine de films. Il est décédé le 4 février 1984 en Suisse. Il repose d'ailleurs à Lausanne. C'est un souvenir mémorable parce que Pierre Dudant, comme je le mentionnais, a participé à de nombreuses émissions, aussi bien à Télémétropole à l'époque qu'à Radio-Canada. Parce que vous, pendant que Béatrice était avec ce cher Olivier, vous étiez sur la rue des Pignons.
J'imagine, à une époque, oui, j'étais sur la rue des Pignons.
Mais vous savez, en parlant de rue des Pignons,
oui.
Que le personnage que
Marie-Josée,
que Marie-Josée, excuse-moi.
Non, mais écoute, ça m'arrive tout le temps, moi aussi.
Que Marie-Josée interprétait, je l'ai interprété à la radio, moi.
C'est vrai.
Ça se jouait à CKAC. À ce moment-là.
Avant d'arriver à la télé.
Ben oui, il n'y avait pas de télé. Et quand la télévision est arrivée, bien sûr, là, j'avais plus l'âge.
Mais c'est presque dommage parce que, j'ai sûr, j'ai adoré jouer avec Gatolini. Ouais. Mais à la limite, tu aurais pu faire ma mère.
Oui.
Mais tu pouvais pas. Mais à l'époque, si tu étais à Télémétropole, évidemment, c'était une époque où on jouait pas dans deux séries en même temps. Il y avait pas assez d'émissions pour ça. Puis ça se faisait pas.
Non, c'est ça.
Ça se faisait pas non plus. Non, Jeannine Jarry, ça a été un beau personnage que j'ai obtenu comme ça, sans même d'audition ou quoi que ce soit, parce que le premier auteur, Louis Morisset, m'avait vu jouer justement dans De 9 à 5. Et puis, il m'aimait beaucoup, quoi. Puis, il m'avait vu jouer, dans des récitals de théâtre parce que j'ai eu des cours avec Citarides, puis elle organisait deux récitals par année et Louis Morisset y assistait. Alors j'ai eu la joie d'être beaucoup appréciée de Louis Morisset.
Et à cette époque, il y avait un chanteur avec les cheveux tout frisés qui faisait un malheur qu'on apprenait à découvrir au Québec. Il avait pour nom Robert Charlebois.
Oui.
Il a connu une carrière formidable.
Il a chanté dans Rue des Pignons.
Mais il a fait pas uniquement des chansons rythmées, il a fait des chansons parfois d'une très grande tendresse, comme celle que vous nous proposez et qui a pour titre « Ne pleure pas si tu m'aimes ».
La mort n'est rien, tu vois, tout est bien. Tu retrouveras mon cœur, essuie tes larmes et ne pleure pas si tu m'aimes. Je suis seulement passé de l'autre côté. Pense à moi, souris, prie pour moi et continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Ne pleure pas si tu m'aimes et donne-moi le nom que tu m'as toujours donné. Je suis moi et tu es toi. Ce qu'on a été l'un pour l'autre, nous le le sommes toujours. Tu retrouveras mon cœur, essuie tes larmes et ne pleure pas si tu m'aimes. Je suis seulement passé de l'autre côté. Pense à moi. Pour moi, et continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Ne pleure pas si tu m'aimes, et donne-moi le nom que tu m'as toujours donné.
Robert Charlebois, à la suggestion de Marie-Josée Longchamp, qui est accompagnée de Béatrice Picard.
Mmh.
On parle de ces carrières formidables que vous avez eues toutes les deux. On remonte un peu en arrière. 1958 pour Béatrice Picard, c'est une année assez formidable pour
Bien sûr, parce que à l'époque, à chaque année, par vote du public d'ailleurs, on élisait une reine, la reine de la radio. Mais après ça, c'était la reine de la radio et de la télévision. Et cette année-là, comme la télévision existait, j'ai été Miss Radio-Télévision. Ça a été une année un petit peu de rêve, parce que vous êtes tellement choyés partout. Les gens vous reconnaissent, les gens vous disent oh, « on est tellement contents ». Et comme ça faisait la 20e reine qu'on élisait, c'était, et ils ont décidé de faire ça à Québec. Et donc, là, il y a un train particulier qui est parti de la gare Windsor à ce moment-là. On était à peu près 200 comédiens et comédiennes, et puis enfin, des techniciens, etc. Et le train parti s'est arrêté à Trois-Rivières, où déjà il y avait une estrade qui était montée.
Quand même.
Et j'ai salué mon peuple.
Vous avez ouvert la voie de Gaulle, quoi.
J'ai manqué quelque chose, j'aurais le savoir sur moi.
Et puis ensuite, on s'est rendu à Québec, et là, c'était la grande soirée dans le Colisée, où tout le monde était là.
Il devait y avoir des milliers de personnes qui assistaient.
C'était plein.
Et où avez-vous couché? Au Château Frontenac?
Oui, au Château Frontenac, dans la suite royale.
Oh, pardon.
Excusez-moi, là, mais... Et donc, j'avais mon coiffeur, Bernard, qui était là, je ne pouvais pas avoir une mèche de travers. Il y avait mon habilleuse qui était là, c'était de Radio-Canada. C'était merveilleux.
Alors, avec tous ces propos, on peut célébrer avec Mozart. Ça terminera la première partie de cette émission. Sono in amore. Et c'est tiré de la Finta Semper. Je pense que vous aimez bien ces petits accords musicaux de l'époque de Mozart.
Ah,